entre du mouvement et au Kassai oriental. J'ai reçu totalement cette
idée. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, l'Afrique de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à la fréquence de l'APE, la Société Civile du Nord Kivu, plaide pour la création des milices d'autodéfense populaire pour faire face à la recrudescence des cas d'insécurité dans l'est du pays. Cette proposition est rejetée par le Conseil supérieur de la défense du 3 novembre dernier, qui estime que la prérogative de protection civile rentre dans la mission régalienne de l'État congolais. Évoquant l'expérience des milices d'autodéfense Mai Mai qui se sont illustrées par des exactions sur les civils, certains observateurs s'y opposent aussi. Nous en parlons donc avec comme question principale, quel regard vous portez sur cette proposition de la société civile et la réaction du Conseil supérieur de la défense du 3 novembre dernier. Alors, rejoignez-nous à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien appelez-nous au 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Paul Badeniam est à la technique, Fezagili Bongonda est à la réalisation de ce programme, coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Léonard Moulamba. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, nous avons reçu vos messages. Chouk Mouirgoua, vous êtes à Lubumbashi, vous avez dit dans votre message, la sécurisation des personnes et de leurs biens relève de la compétence exclusive de l'État et c'est un domaine où l'on met l'accent sur la souveraineté de l'État. Mais à RDC, ce n'est pas le cas car l'État est défaillant et par conséquent, il partage certaines de ses fonctions régaliennes avec les tierces, notamment avec les agences ou compagnies privées de sécurité, KK Sécurité, Delta Protection, etc. Domaine où l'État devrait seul intervenir pour que sa souveraineté ne soit pas remise en cause. Étant défaillant, le gouvernement congolais aura tort de rejeter cette proposition de la société civile parce que sur les champs, donc à Béni, la population s'est fait massacrer tous les jours, donc sous les regards impuissants des FARDC, PNC et la MONUSCO. Mais s'il était question de disperser ou même étouffer une marche où la police, la population revendique une cause noble, là, le gouvernement ne tardera pas à démontrer sa souveraineté. Faut-il croiser les bras alors que la population s'est fait tuer sans assistance? Mesdames et messieurs, il faut encore merci de votre fidélité à Radio Capi. Nous avons en ligne Tazi qui est analyste politique et qui est effectivement notre invité du jour. Monsieur Tazi Mahatma, bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous êtes notre invité, vous venez de suivre le message que Chouk Mouligwa de Lubumbashi nous a envoyé. Quelle est votre réaction par rapport à la thématique?
En fait, merci de me faire participer à ce débat. C'est un problème plus profond qu'on puisse le penser et qu'on puisse le percevoir. En fait, il faut cesser de parler de l'affaire du Congo, d'étudier les questions relatives à la politique nationale du Congo avec beaucoup de passion. C'est ça le mal que nous ne cessons de souligner au Congo. Le problème, ce n'est pas de savoir qui a tort, qui a raison. Le problème, ce n'est pas cela. Mais il faut plutôt changer de paradigme de perception de fait. Le problème, c'est que nous avons un État qui fait face à ses responsabilités, qui a des missions régaliennes de souveraineté. Et malheureusement, ces missions ne sont pas effectivement accomplies. D'un autre côté, nous avons une population meurtrie qui est abandonnée à son triste sort. Maintenant, le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Il est vrai que le Conseil suprême de la défense a refusé la proposition de la société civile du Nord sur Kivu. Mais maintenant, il faut se poser une question majeure. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il faut retenir que l'État a démissionné. L'État ne sait pas faire réellement son travail. Le problème maintenant, c'est de savoir pourquoi l'État a démissionné et qu'est-ce qu'il faut faire dans les médias pour que la population soit protégée. C'est ça le vrai problème. Il faut peut-être penser à cela avant de savoir qui a tort ou qui a raison. Voilà, donc, juste ce que je peux commencer par dire en termes d'introduction.
Voilà. Alors, nous allons continuer parce que l'État a même mis en garde, en fait, le conseil de défense a mis en garde quiconque qui aurait l'idée pernicieuse, selon leurs propos, donc de créer toute forme de milice susceptible, de créer la confusion ou de gêner les actions des services de l'État, seuls chargés de la défense et de la sécurité des personnes et de leurs biens. Voilà, donc c'est juste d'ailleurs, le communiqué de M. Luba Tambo, le ministre de la Défense, voilà, que nous avons d'ailleurs pu contacter pour éclairer la lanterne des uns et des autres, mais voilà, qui en fait n'a pas voulu donc s'exprimer quant à ceux en nous demandant de proposer donc en fait ce débat au niveau de porte-parole du gouvernement qui pourrait éclairer la lanterne des uns et des autres. Voilà, c'est pourquoi nous avons estimé le faire donc avec vous, les analystes. Voilà. Alors, mais comment vous réagissez par rapport à des sanctions qui vont suivre, disons, à l'endroit de tous ceux-là qui ne vont pas respecter la décision du Conseil supérieur de la Défense?
En fait, le gouvernement a une lourde responsabilité de protéger les citoyens, leurs personnes et leurs biens. C'est de la responsabilité souveraine de la République, c'est bien. Mais dans l'entretemps, si l'État est démissionnaire, il faudrait bien qu'on trouve quelque chose. Il ne suffit pas de dire c'est. Il faut qu'il soit d'organiser les moyens de protection. Mais souvenez-vous que Laurent Désiré Kabila a sorti quelque chose de très, très authentique. L'auto-prise en charge populaire. Je ne sais pas si vous vous en souvenez encore.
Oui, avec le CPP.
Avec le CPP, avec les volontaires, ainsi de suite. Est-ce que le problème ne réside pas dans le souci d'encadrer cette auto-prise en charge populaire-là? Il est vrai que nous avons eu des expériences malheureuses dans le temps. Les Maïmaï se sont organisés. Après, ils se sont retournés contre la population civile. Mais si l'affaire de Maïmaï est encadrée par la police nationale, je pense que les choses peuvent changer. Ce qui est regrettable, c'est quoi, Julien? C'est que le peuple est assassiné. Les paisibles citoyens ne peuvent pas vivre leur vie avec toute quiétude. Même le gouvernement ne fait rien. La police nationale ne fait rien, l'armée ne fait rien. Mais on interdit à ce peuple-là de se défendre. C'est inexplicable. Moi, j'aurais souhaité que le gouvernement, par le truchement du Conseil suprême de la défense, organise les maïmaï. Organise les maïmaï au lieu d'interdire toute mesure allant dans le sens de l'entreprise en charge
populaire. Oui.
Là, c'est inexplicable.
Oui, t'as dit, aujourd'hui, par rapport à la position géostratégique de l'Est de la République démocratique du Congo, est-ce que vous pensez que, et dans les contextes sociopolitiques actuels également, que cette idée serait vraiment l'idéal de créer des milices d'autodéfense populaire?
Non, je ne peux pas dire que c'est l'idéal. Est-ce que c'est que je ne condamne pas le gouvernement? Je ne condamne pas les décisions prises par le Conseil suprême de la
défense.
On ne peut pas dire que c'est l'idéal. Il faut dire quand même qu'on passe la population qui est assassinée, qui est laissée à son propre passe. Alors, on dit on ne peut pas. On ne peut pas s'autodéfendre, mais d'un autre temps, le gouvernement, la République ne sait pas protéger ce citoyen. Je vais vous dire une chose, hein, parce qu'on parlait de la situation géopolitique de l'heure. Ne vous souciez pas de cette situation géopolitique de l'heure. Souciez-vous plutôt de la perception des grandes puissances de la République. Plus on va percevoir le Congo comme un trou noir, où rien ne marche, où le gouvernement ne peut pas protéger ses citoyens, alors on donnera raison à ceux qui veulent balkaniser la République. Il faut. Le problème, ce n'est pas d'interdire, mais de trouver une mesure palliative. on n'interdit pas, mais on protège. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faudrait qu'on trouve une mesure médiane. Sinon, qu'est-ce que la profession va faire? Qu'on les veuille ou non, si on ne trouve pas quelque chose de plus rapidement possible, cette population va s'auto-prendre en charge. On se prend pour interdire, mais ça ne se réalisera pas.
Voilà. Alors, voilà, si je comprends bien, donc il faut déjà mettre toutes les batteries en marche pour arrêter l'hémorragie, parce que c'est vrai, la population, on sent déjà, même au niveau de Béni, il y a déjà une tension très latente, il faudrait bien l'encadrer pour éviter à ce que quelques civiques puissent, en fait, atteindre à la décision du Conseil de la Défense pour, en fait, s'auto prendre en charge. Voilà, merci beaucoup. Tazim, restez en ligne, on va, disons, ouvrir les standards pour accueillir les auditeurs qui vont également réfléchir par rapport à cette thématique autour de la position de la société civile du Nord Kivu qui plaide pour la création des milices d'autodéfense. Une proposition rejetée par le Conseil supérieur de la défense du 3 novembre dernier qui estime que la prérogative de protection civile rentre dans la mission régalienne de l'État. Alors, quel regard portez-vous sur cette proposition?
Parole aux auditeurs.
Nous avons en ligne Benjamin Massoua qui est à Butembo. Benjamin, bonjour.
Bonjour.
Voilà, Benjamin, vous avez la parole. Votre point de vue, quel regard portez-vous sur cette proposition de la société civile, une proposition qui est rejetée par le Conseil supérieur de la défense?
Moi, je soutiens vraiment 100% la proposition de la société civile du Nord Kivu. Disant qu'il faut vraiment créer des milices d'autodéfense pour que la population se prenne en charge. Vous-même, vous êtes en train de voir la situation, comment elle est en train de se prendre ici au nord de vous. Moi, je suis à Butembo, à une cinquantaine de kilomètres de Beni. Actuellement, si vous arrivez à Beni, vraiment, c'est une catastrophe. Comment expliquer aussi déjà comme ça, à quelques mètres de militaires, des FARDC, à côté de la MONUSCO, et ils ne descendent même pas. Moi, je crois que la population a vraiment raison de se prendre à charge. Parce qu'aujourd'hui, il y a des milices qui ont commencé vers Vurondo, c'est au sud de Butembo. Même il y a aussi des infiltrations qu'on est en train de signaler dans les Rutshuru, qu'il y a des milices de rebelles qui ressemblent aux Al-Shabaab, aux portes de robes et de toges. Et les gens ne savent pas d'où viennent ces personnes. Alors que nous avons des services de sécurité qui sont là, ça sert vraiment à protéger la population. Alors, on ne comprend plus la situation à l'est de la RDC, monsieur le journaliste.
Oui, Benjamin, parce que vous soutenez cette proposition, à comparer donc les expériences du passé, on se rend compte que l'expérience, par exemple, de Mai Mai, c'était en fait une proposition qui est sortie de la population, c'était spontané. Aujourd'hui, on sent que quelque chose qui sera structuré, ça ne donnera pas autant de résultats, aussi longtemps que même une idée qui est sorti d'une manière spontanée, n'a pas donné, parce que nous avons vu, en tout cas, tout le monde le déplore, que les Maïmaï se soient érigés donc à un groupe armé très actif et qui a, en fait, continué à poser des actes ou des exactions sur les civils. Alors, tout le monde déplore, tout le monde craint ça aujourd'hui. Est-ce que vous ne craignez pas, vous aussi, tel dérapage?
Non, monsieur le journaliste, ce qui est là est qu'on n'aura pas seulement un seul groupe, si ce n'est pas seulement le Maïmaï, parce que là, ça sera encore des groupes sous forme définie. Et là, nous allons former des groupes qui vont ressembler toute la population du Nord Kivu, que ce soit les Nande ou les Hutu, les Bashi, tout le monde sera dans ces milices. Ce n'est pas une milice qui sera dirigée par une certaine personne là, d'une certaine catégorie, mais ça sera une milice inclusive, là où tout le monde aura vraiment sa part des choses, parce qu'on est vraiment, nous sommes dans une situation là catastrophique. Depuis 1900, combien
mais
on ne comprend pas vraiment les Congolais ne s'arrivent pas à maintenir de l'ordre à l'Est.
Voilà, déjà, mais là, vous demandez au gouvernement de revoir la Constitution, parce que aucune disposition de la loi fondamentale va dans ce sens-là, ne donne pas, en fait, c'est dans la mission régalienne de l'État, de protéger les civils et les personnes et leurs biens.
Et puis, quand l'État a failli à sa mission, qu'est-ce que la population doit faire? Moi, je crois que la population se prendra en charge parce que les gens sont devenus pauvres juste parce qu'on manque même quoi manger dans la maison à cause de l'insécurité. Moi, je suis arrivé à Bélizère, Moutouan, dans la Côte d'Ivoire, là où il y a des habillés. Ce sont des régions de terres très fertiles, mais vous arrivez, il y a une population très pauvre parce que personne n'arrive plus d'accrocher. Personne ne va pas nous dire plus. Alors, comment est-ce que nous allons continuer comme ça à vivre dans une situation malheureuse comme ça, alors que nous avons élu des personnes, ça fait
mal
pour la population à Kinshasa, alors qu'on constate que tout le monde ne fait absolument rien, aussi comme ça, même des populations dans les villes, arriver à Béni, c'est une ville là où on ne pouvait pas quand même faire des tarnages pour qu'on en fait à Béni. La population vraiment a raison et moi je soutiens à 100%
c'est votre point de vue, c'est votre position.
Nous allons toujours le soutenir.
Durable. Merci beaucoup Benjamin Massoua d'avoir appelé Béni Boutembo. Voilà, vous soutenez cette idée de pouvoir s'auto-prendre en charge, pour permettre à ce que on puisse arrêter cette hémorragie de l'insécurité. Voilà, donc et puis c'est ce cycle de la sécurité qui connaît cette partie du pays. Omar, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Omar.
Bonjour Pierre et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Pacifique.
Est-ce que vous soutenez cette idée de la création des milices d'autodéfense populaire comme votre prédécesseur ou carrément vous rejoignez la position du Conseil supérieur de la défense du 3 novembre dernier qui estime que la prérogative de protection civile rentre dans la mission régalienne de l'État et d'ailleurs il y a des dispositions dans la loi fondamentale qui donnent à l'État ses pouvoirs.
Merci beaucoup Pierre du verbe que vous m'avez dit. Par rapport à votre question introductive, je voudrais parler comme l'invité pour dire nous ne faisons pas un procès lorsque nous intervenons pour dire qui a raison, qui a tort. Parce que la position du gouvernement est fondée dans la mesure où elle pense qu'il y aura des répercussions et dans son rôle, il agit en tant que préventif. La position de la société civile aussi est fondée dans la mesure où on ne peut pas empêcher une population de s'autodéfendre. Et moi, je voudrais dire, puisque le mouvement est très complexe, on partisait ma thèse en trois fondements. Premièrement, je soutiens à 100% l'idée de la société civile. Je pense que ma position a trois fondements. Un fondement historique, un fondement juridique et un fondement logique. Hier, sur le plan historique, nul n'a le droit d'effacer l'histoire d'un peuple. Et l'histoire, on n'en trahit pas, on n'en refait pas, mais on en tire plutôt les conséquences. En 97, ici à Kinshasa, dites-moi qui ont mis fin au système de Rwandais. N'est-ce pas le peuple qui noie des matinas? Avec le général Mbunda Mabé, lorsqu'il a gagné le rappel de Rwandais à l'Est, n'est-ce pas qu'il a déclaré sur RFI qu'il était la vigilance de la population et n'aurait pas gagné? Il y a eu aussi récemment en Bandundu où lorsque dans un milieu, la police a été incapable, c'est la population qui s'est prise en charge. Donc sur le plan historique, il existe des précédents qui nous ont montré que chaque fois que la population s'est levée, et la paix est revenue. Sur le plan juridique, je vous ai entendu dire que je n'ai rien prévu. Mais moi, je vous donne des dispositions qui permettent. Premièrement, l'article 5 de la loi fondamentale qui dit la souveraineté appartient au peuple. C'est le peuple qui est le détenteur suprême du pouvoir d'un État. Et il en décide d'en faire ce qu'il veut. Mais il y a aussi l'article 64 de la Constitution qui dit tout citoyen congolais a le droit de faire échec à tout groupe d'hommes qui violent la Constitution. Faire la guerre à la RDC, c'est violer la Constitution. Et la même constitution permet à tout citoyen ou à un groupe de citoyens de faire échec. Est-ce que s'organiser en autodéfense n'est-il pas une façon de respecter l'article 64? Vous lisez la charte de l'ONU, dont la RDC est partie. Il dit tout peuple d'un État a le droit de se disposer d'eux-mêmes. Alors, cela n'est pas un fondement juridique. Je voudrais finir avec les fondements logiques. Le gouvernement a dit que c'est à lui qui revient la mission régalienne. Mais lorsque dans une maison, le chien ne sait plus faire son travail, les chiens dans la chèvre est surveillée contre les voleurs. Celui qui est censé protéger ne protège pas. Ce ne sont pas de bêtes qui meurent. Depuis 98 jusqu'à aujourd'hui, plus de 6 millions de morts. Nous sommes à qui peut-être nous allons traiter avec les gens ces problèmes. Allez vous renseigner sur ceux qui vivent là-bas.
Alors il faudra vraiment qu'on intervienne.
Voilà oui, Omar, avant vos propositions, parce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, aller vers cette idée, soutenir une telle idée, ne remettrait peut-être pas en cause, en fait, tous les accords et traités signés avec d'autres partenaires pour toujours, entre dans les cas d'espèce, chercher la paix dans l'est du pays, ou encore chercher davantage une solution durable pour la sécurisation des personnes et de leurs biens.
Pas nullement, JR. Vous savez, dans la vie, le plan A ne marche pas, faut procéder par le plan B. Combien d'accords n'avons-nous pas signés? Plus de 50. Combien de restes n'ont pas pris? Et lorsque ça ne tient pas, la population veut se prendre en charge, tel qu'elle a dit Moussa Kabila. Est-ce un péché? Moi, je pense, je trouve la crainte du gouvernement légitime, mais je pense que cette décision de la société civile n'a pas pour ambition de remplacer l'armée. Non, ce n'est pas seulement ici. C'est grâce à la population que Kadhafi est parti. C'est grâce à la population que Bakou est parti. La population n'a pas pour ambition de remplacer l'armée, mais elle a pour ambition de protéger et d'accompagner l'armée. Je pense que pour éviter des abus, des répercussions négatives, il faudra que le gouvernement avec l'armée accompagne la population, comme l'a fait Moussa Kabila avec le Fonds d'autodéfense populaire, qu'ils encadrent, qu'ils conscientisent et qu'ils accompagnent. Donc ça sera un effectif de plus. La MONUSCO est là. Il y a même un mandat offensif. L'armée est là, mais le mort s'en suit toujours. Mais voulez-vous que la population soit prête?
Oui, parce que vous avez évoqué. Parce que vous avez évoqué la MONUSCO lors du passage du chef de l'État à Beni par rapport à cette situation. L'autorité a demandé officiellement à la MONUSCO de protéger les civils. Comment vous avez réagi par rapport à cette à ces plaidoyers?
Oui, c'est pas une première. La MONUSCO a toujours eu pour ambition de protéger la population civile depuis sa création. Mais son mandat a été renforcé récemment, celle d'attaquer les forces armées. Mais nous estimons à ces jours que le bilan paraît toujours mitigé. Voilà pourquoi il faudra agir et agir maintenant. Mais si l'État estime que c'est toujours dangereux, parce que nous sommes dans un État où nos propositions n'ont jamais été prises en compte, il faudra alors que le droit soit sérieux. On ne peut pas demander à un enfant d'aller pas aller voir la télé chez les voisins alors qu'on n'a pas la télé chez soi. Vous ne voulez pas que la population réagisse?
Et quelles sont les propositions?
Alors, quelles sont les propositions?
Omar, quelles sont les
propositions? Pour rôle de rendre service à la nation.
Et quelles sont vos propositions? Qu'est-ce que vous proposez, vous?
Premièrement, je voudrais proposer au gouvernement congolais via le ministère de la Défense d'accompagner la société civile en créant cette force d'autodéfense populaire. Et je ne voudrais pas qu'on utilise le terme milice, ça a une acception négative. Voilà. On parle plutôt d'un groupe d'autodéfense populaire. Les former, les encadrer et les conscientiser. Et des deux, je voudrais que le gouvernement renforce sa capacité de protection. Parce que même si la population intervient, l'État n'a pas pour rôle d'observer, mais pour attaquer et défendre. Voilà mes deux propositions à ce jour, JR. J'ai dit, je vous remercie.
Merci beaucoup, Omar, d'avoir participé à ces débats. Daniel, vous êtes à Guémena. Bonjour, Daniel.
Oui, bonjour, monsieur JR, c'est Daniel depuis la province de l'Équateur.
Voilà, Daniel, nous vous gardons encore en ligne. On va revenir à notre invité, professeur Tazi, Mahatma, analyste politique. Vous êtes en ligne, Tazi?
Oui, bien sûr.
Quelle est votre réaction par rapport à ce que vient de dire tout à l'heure Omar et l'intervention de Benjamin de Beni Boutembo?
Écoutez, il y a beaucoup de choses à relever, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses à relever. Première chose à relever, plutôt, c'est la crainte ou le risque de dérapage, comme vous avez souligné.
Mm-hmm.
En fait, je n'ai pas vu, en Afrique ou ailleurs, une mission de ce genre-là sans dérapage. Ça n'existe pas. Même les grandes missions, envoyé par les opérations du ministère de la paix de l'ONU, hein, on a connu des dérapages. Même les grandes puissances, vous savez ce que les Américains font en Irak et ailleurs, on n'a pas, il y a toujours des dérapages. Alors, ce qui est plus important, c'est la faculté de limiter le plus possible ces dérapages-là. Et là, le gouvernement de la République a le moyen de le faire. L'État est appelé donc à prendre toutes les mesures nécessaires qui s'imposent pour protéger, mais aussi empêcher le dérapage, en encadrant et en accompagnant
la population.
Je suis très heureux qu'on nous demande de ne pas payer sa milice, mais une opération d'auto-prise en charge populaire. Deuxième élément à relever, JR, les partenaires. Vous semblez avoir la crainte des accords passés entre la RDC et ses partenaires régionaux ou ses régionaux. Je ne trouve pas d'explication selon laquelle un partenaire de la RDC aurait du mal à comprendre une organisation d'autoprise en charge populaire à l'intérieur du pays. Ça ne menace pas nos partenaires. À moins qu'il y ait quelque chose qu'on nous cache. Sinon, je ne trouve pas que ça menacerait l'un de nos partenaires sur le genou ou le genou. Un autre élément important. Lorsque l'autorité, la présidente de la République, demande à la Morisseau de protéger les civils, ceci veut dire quoi? C'est que ça veut simplement dire que la République a échoué dans ses prérogatives régaliennes de protéger les civils. Cela démontre de l'échec et de la faillite de l'État. Pour conclure cette partie, j'ai une paire bleue. C'est que ce qui se passe à Béni justifie la perception extérieure de la RDC, qui est depuis très longtemps, depuis 90 perçu comme état, un état qui a failli. Je vais vous donner un ordre, une hiérarchie dans la perception de la politique étrangère américaine. Vous avez les rough states, vous avez les failure states, et vous avez également les pivotal states. Vous avez les états voyous, les états faillis et les états pivots. Il y a également ce qu'on appelle les transformation states, les états transformés. La RDC se trouve quelque part dans cette hiérarchie. La RDC est exploitant un état qui a failli. Et les princes, c'est ce que nous gardons. Lorsqu'on n'est pas à mesure de protéger les populations civiles, cela prouve à suffisance que la République est en danger. Il faudrait.
Oui, c'est-à-dire, si revenons un peu à l'histoire, l'historique de notre pays, l'évolution historique donc dans notre pays, la situation politique, la situation économique, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des efforts qui sont menés de la part du gouvernement pour, au fait, sortir de la RDC de ce grand trou, de ces marasmes, en tout cas sur tous les plans. On a vu quand même des avancées, et autrefois, certains rapports nous mettaient toujours au bas de l'échelle, en tout cas, de la ligne rouge. Alors aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a des avancées. Nous pouvons prendre les cas des tout derniers rapports avec les Doing Business. Alors on sent qu'il y a des efforts qui sont menés. C'est vrai, on ne peut pas par un coup de bâton magique tout changer, mais pourquoi ne pas encourager déjà des efforts? Et quand l'État se dit, ben voilà, il est prêt à protéger les civils, pourquoi ne pas lui laisser le temps de les faire et de les faire parce que c'est à lui qui revient cette mission régalienne.
S'il te plaît. Je salue la difficulté avec laquelle le gouvernement s'efforce à faire quelque chose. Il y a des avancées. Il y a réellement des avancées. Ça, personne ne peut l'ignorer. Cependant, les faits sur le terrain nous ramènent en arrière. Lorsque l'armée nationale et la police nationale ne peuvent pas protéger les paisibles citoyens de la RDC, quel est le message que nous lançons à l'extérieur? Nous sommes capables. Dès lors que nous disons que nous sommes incapables, nous sommes classés.
Voilà.
Soit sur les États qui ont failli, soit sur les États transformés, soit encore sur les États voyous. Or, dans le chemin, par exemple, les pays qui ont failli sont exportateurs de l'instabilité et du terrorisme.
Voilà, si vous le permettez, Tazi Mahatma, vous êtes notre invité, vous êtes professeur et analyste politique. Nous prenons Daniel, qui est à Guémena. Daniel, vous êtes avec nous?
Oui, je suis en ligne, monsieur.
Alors, votre point de vue, Daniel?
En fait, moi, je vais intervenir parce que je suis tout d'abord, je suis oui, en Équateur, mais je suis normalement de Beni, c'est ça vraiment ma contrée. Je pense au moins sur ce qui est en train de se dérouler là-bas. Et c'est une affaire de tous et nous devons vraiment voir bien les choses dans le sens normalement objectif. Pour les problèmes qui secouent le pays, je pense que la proposition qui est venue de la société civile ne serait pas normalement méprisée ou bien contredite par le gouvernement. D'aussi longtemps que je pensais pour moi que ça serait normalement un groupe de soulagement dans les camps du gouvernement, ou carrément une goutte d'eau qui tombe dans le désert. Parce que le gouvernement, en tant que responsable, en tant que parent dans un foyer, il serait difficile que cette proposition-là vienne de sa part. Mais du fait que cette proposition est venue de la part de la société civile, normalement, ça ne causerait plus, ça ne mettrait plus en cause les pouvoirs, mais plutôt, ça répondrait normalement à la demande. Parce que, monsieur le journaliste, vous n'êtes pas censé ignorer que qui dit je ne sais pas, ou bien qui dit je ne suis pas capable n'a pas tort, mais à tort qui dit qu'il est capable alors qu'il ne l'est pas. Pourquoi le gouvernement ne peut pas nous dire que non, voilà, en réalité, on a fourni nos efforts, mais voilà, jusqu'au dernier degré, les choses n'ont pas tenu. Et voilà que je peux, moi, de ma part, encourager et féliciter la proposition de la société civile. Mais plutôt, j'aimerais changer l'angle de voir les choses et dire que ça ne serait pas une milice. Mais au contraire, créer des préférences ou carrément rendre efficaces les mesures ou les mesures de sécurité. Vous savez, monsieur le journaliste, dans des pays voisins de notre pays, ici la RDC, même les gens que nous on a vu à Goma venir vendre ou carrément ramasser des bouteilles d'eau pour à usage unique, ces mêmes gens, des personnes de moindre valeur, forment toujours le système de sécurité de leur pays d'origine, notamment le Rwanda, l'Ouganda. Et donc, pourquoi pas chez nous, ça ne peut pas se faire. Il fallait plutôt, au lieu que ça soit une milice qui soit formée par le gouvernement ou carrément soutenue par le gouvernement, ça serait plutôt renforcer les mesures de sécurité, surtout aussi sur les renseignements civils. C'est-à-dire, dire au peuple que non, voilà, en cas de toute information, venez aviser ou carrément porter, disons, l'éducation publique ou carrément les gens qui ont l'amabilité ou bien le pouvoir de la sécurité publique. Voilà un peu ce qui se ferait. Parce que si on restait dans l'option d'une milice, je pense bien que vous n'êtes pas ignoré que même l'armée de la République a eu à un moment donné à des infiltrations. Nous avons eu à des infiltrations où on a vendu des munitions, on a vendu des dotations. Et pourquoi pas dans une milice, cela ne peut pas se faire.
Voilà.
Et donc, pour une milice, ça serait vraiment exagéré ou carrément trahir le pays. Mais carrément dire au peuple seulement, prenez-vous en charge. Parce que dans la donne où les presses internationales et vous-même, vous avez développé, on a vu que les adeptes qu'on est en train de parler, il y a même des enfants de la place, de chez nous là au niveau du Grand Nord, qui ont adhéré dans la même politique de ces rebelles là, de ces groupes là, par crise, par chômage et par souffrance aiguë. Et donc lorsque le pouvoir, lorsque la sécurité ou carrément les renseignements seraient dans la main de la population locale, celui-ci, moi je suis ici, je saurais que mon voisin est en train de cohabiter avec un adepte à nous. Dans ce sens-là, nous aurons éradiqué les problèmes.
Voilà,
et de vouloir même continuer à encourager le peuple, non, l'État va pourvoir, l'État va faire, alors qu'en réalité, l'État ne fait même rien. Voilà,
si je comprends bien, Daniel, vous conscientisez les gens que l'État-providence n'existe plus. Il faudrait que la population puisse se prendre en charge, prendre en charge, mais à une seule condition, qu'elle soit accompagnée par le gouvernement, par l'État qui en a la mission. Merci beaucoup, Daniel. Christian, vous êtes à Bounia. Bonjour, Christian.
Bonjour Gilles, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à tous les Congolais.
Alors, avant que vous donniez votre contribution dans cette émission, vous avez suivi tout à l'heure votre prédécesseur Omar, qui évoquait l'article 5 de la Constitution ainsi que l'article 64. L'article 5 qui parle de la souveraineté qui appartient au peuple et l'article 64 qui, au fait, dispose que tout citoyen a droit à faire échec à un groupe qui, au fait, appuierait la Constitution. Mais voilà, alors, selon son interprétation, ce sont ces dispositions qui donnent le droit à la population de pouvoir créer, c'est livré à cette opération, ou s'adonner à ce genre d'opération d'autodéfense.
Non, mon prédécesseur a raison, parce que nous sommes dans un état de droit. En plus, si on voit bien, ça arrive parce que, je peux dire d'une façon teneur, le peuple est fatigué, avant laquelle tous ces trucs arrivent. Donc, mon prédécesseur a pleinement raison de dire ça.
Voilà, alors votre point de vue par rapport à la thématique, quel est le regard que vous portez sur cette proposition de la société civile?
Moi, je soutiens en 100% cette proposition de la société civile parce que je trouve que non, le soi-disant gouvernement est vraiment irresponsable.
Il faut quand même bien peser les mots. Je crois que nous avons un gouvernement qui est en place, ce n'est pas le soi-disant gouvernement. Si vous pouvez peut-être nuancer.
Monsieur Gilles, si j'ai non. Dit cette façon, c'est pas fait. Parce que je suis en train de compatir avec mes compatriotes.
Oui, il y a meilleure façon, autre façon de compatir. Hein, n'est pas, au fait, de ne pas reconnaître le gouvernement, ça serait quand même pas correct de notre part, Christian. Il y a un gouvernement qui est en place.
On peut reconnaître un gouvernement qui a les soucis de son peuple, mais un gouvernement qui n'a même pas les soucis de son peuple.
Mais le gouvernement a les soucis de
son peuple. C'est qu'il visait son intérêt.
Oui, Christian.
Alors, moi, de ma part, ça n'engage que moi. Oui. J'ai dit que non, le gouvernement doit être responsable et puis faire ce qu'il est ce qu'il est à lui.
Et le fait de demander aux partenaires de renforcer la protection de civils, c'est pas là être responsable.
Vous savez, demander aux partenaires. Alors, le travail du gouvernement, c'est quoi? Si on demande aux partenaires, ça c'est leur responsabilité. Ça pourrait sortir de lui-même pour prendre des dispositions pour gérer le pays, pour la sécurité de son peuple.
Voilà, merci beaucoup, Christian, d'avoir appelé des Bouliats dans la province orientale. On va revenir ici à Kinshasa avec Dédé Kabeya. Dédé, vous êtes avec nous. Bonjour, Dédé. Vous avez la parole, Dédé. Quel est votre regard par rapport à cette proposition de la population du Nord Kivu qui, en fait, plaide pour la création d'un groupe d'autodéfense populaire pour faire face à la recrudescence des cas d'insécurité dans l'est du pays? Une proposition, en tout cas, qui est rejetée par le Conseil supérieur de la défense du 3 novembre dernier, qui estime que la prérogative de protection civile rentre dans la mission régalienne de l'État.
Ok, merci pour la parole. Premièrement, j'ai des larmes aux yeux. Vis-à-vis des problèmes qui se passent là à Beni, et je donne toute la responsabilité à la nation congolaise parce que une nation c'est comme un corps humain. Lorsque un membre du corps est endommagé ou malade, c'est tout le corps qui souffre. Jusque là, vous remarquerez même lors des interventions, les autres secteurs de notre pays, alors que nous avons 11 provinces, nous ne voyons que les gens de l'Est qui le pèsent. Alors c'est un problème qui pouvait occuper toute la République démocratique du Congo. À la raison de savoir quelle était ma position vis-à-vis de la décision de la société civile, moi je voudrais dire une chose. L'État congolais, en ce moment-ci, souffre d'un problème de toute structure pragmatique. Ce qui veut dire quoi? Ils veulent une chose de son contraire. Ils ont sollicité la population à intervenir pour sa propre sécurité. Au lieu de tirer profit de cette influence que la jeunesse de ceux qui vont se mettre à travers des gens là qui sont en train de s'adapter, tu veux faire à Béni, c'est une jeunesse. Au lieu de profiter de cette influence de la jeunesse qui vient vers l'État pour lui donner un coup de pouce, peut-être chercher à voir de Mamanou Ndala ou de je ne sais pas, d'autres qui sont morts en voulant défendre leur pays, vous venez tout en étant incapable pour sécuriser ce secteur, sur le temps. Ils doivent prendre leurs responsabilités, cantonner cette jeunesse qui est motivé, mobilisé, toute la République, envie d'être derrière cette jeunesse pour que nous puissions mettre hors d'état de nuire très belle, l'étranger ou congolais qui viendrait pour faire couler le sang congolais. Et je vous dis que c'est vraiment à l'avant.
Voilà, merci beaucoup Dédé. On va voir derrière avec notre invité. On va scruter davantage l'article 5 et l'article 64 de la Constitution, en tout cas qui parle en fait respectivement de la souveraineté qui appartient au peuple, ainsi que le droit à faire échec à un groupe armé qui en fait opérerait à l'encontre de dispositions de la loi fondamentale. Mais voilà, donc nous rappelons à tous ceux qui arrivent que vous êtes réellement sur Radio Okapi, la fréquence de la paix, et vous suivez donc l'émission Parole aux auditeurs, votre magazine de débat citoyen, 081 890 63 15 pour votre intervention en direct.
Écho d'économie sur Radio Okapi, la vie économique du Congo à une vitrine. Écho d'économie, 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, un reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Voilà, merci de votre fidélité à Radio Okapi. Comme je le disais, si vous arrivez, bonne arrivée sur les ondes des Radio Okapi. Nous allons prendre Maurice qui est à Kinshasa. Mais il est temps d'abord de revenir à vous, Tazi Mahatma. Vous êtes professeur à l'UNIKIN et analyste politique. Tazi, vous venez de suivre cette deuxième série des auditeurs. Quelle est votre réaction? Voilà, professeur Tazi, vous êtes avec nous? Voilà, merci. Il est temps que professeur Tazi puisse revenir encore en ligne. On va prendre plutôt Maurice qui est à Kinshasa. Maurice, bonjour.
Bonjour, Jirmungembo.
Vous avez la parole, Maurice. Votre point de vue.
Merci, Jirmungembo, pour la parole. Je commence par dire ce que je crois le président tunisien a déclaré ici lors du sommet là, de la francophonie, où il conseillait aux dirigeants africains de faire des réformes. S'ils étaient capables de le faire, le peuple lui-même pouvait le faire à la place des dirigeants. C'est-à-dire que, je veux dire ceci, lorsque un État, plutôt un gouvernement, est incapable d'assurer la sécurité, d'assurer l'ordre public, je pense que le peuple a le devoir de s'auto-défendre, de se protéger. Alors moi, je ne vois pas pour quelle raison qu'on doit dire plutôt s'opposer plutôt à cette initiative de la société civile. Parce que ici, l'État, nous disons souvent que l'État congolais vraiment est démissionnaire. Nous vivons dans un État où vraiment c'est, nous ne savons pas ce qu'est réellement le rôle de cet État. Un État qui n'existe que structurellement. Hein, un État, un peuple, des territoires, un gouvernement, tout ça, des institutions établies. Mais par rapport au fonctionnement de l'État, ça c'est la première mission, assurer l'ordre, la paix, la sécurité sociale. Tout ça c'est vraiment dans les missions régalienne d'un gouvernement. Mais aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe par exemple à Béni, dans les Nord Kivu. C'est vraiment la jungle, c'est vraiment la somalisation. Lorsqu'on prend une telle initiative, moi je pense que nous devons encourager cela.
Oui, vous, vous ne redoutez pas, Maurice, qu'il y ait une forte circulation des armes, parce que on le sait, peut-être on ne reviendra pas sur l'opération échange armes contre 100 $ ou je sais pas. Il faut pas encore donner du boulot aux ONG, aux différentes ONG d'opérer dans ce sens-là, parce que le fait d'entériner une telle proposition, vous ne craignez pas, vous ne redoutez pas vous personnellement qu'il y ait une forte circulation et de ce point il y aura des éléments incontrôlés qui vont opérer et ainsi créer des exactions sur les civils, voilà, gratuitement.
Oui, ces craintes, en fait, sont vraiment légitimes. Mais ce que nous voulons ici, c'est un problème, maintenant un problème réel qui se pose dans la société. Nous sommes en présence d'un gouvernement qui est incapable d'assurer cette sécurité. On ne peut pas admettre que les populations qui souffrent d'abord, qui sont victimes de la gouvernance chaotique et catastrophique.
Voilà, Maurice, si on peut rester dans les thèmes, dites-nous, vous, personnellement, parce qu'il y a Omar qui venait d'évoquer deux articles de la loi fondamentale, notamment l'article 5 et l'article 64. Pour lui, en tout cas d'une manière tacite, ces articles donnent la souveraineté au peuple de pouvoir, au fait, se prendre en charge. Bon, je ne sais pas, est-ce que vous interprétez de la même manière qu'Omar?
Ouais, je dis que je ne vous ai pas bien suivi, si vous pouvez me demander.
Oui, je disais tout à l'heure que Omar a évoqué deux articles de la Constitution, notamment l'article 5 et l'article 64. L'article 5, c'est plus que la souveraineté appartient au peuple, et l'article 64 parle de droit de tout citoyen de pouvoir faire échec à un groupe qui, en fait, bafouerait la loi fondamentale. Alors pour lui, selon sa seule interprétation, c'est deux articles qui donnent le prérogatives à la population de pouvoir avoir de telles initiatives. Est-ce que vous avez la même interprétation?
Oui, je corrobore, en fait, à travers en fait, mon intervention, tout ce que je suis en train de dire ici. En fait, je viens appuyer ce que Omar, en tant que juriste, a dit. Donc, lui vient quand même, nous apporte quand même une base juridique par rapport à ma déclaration, ce que je suis en train de donner comme réflexion. Donc, le problème dans un état normal, il est difficile que cette initiative soit pratique, hein, soit pratiquée, mais dans un état où il y a absence totale de l'autorité de l'État. C'est là maintenant la grande difficulté. Même chez vous, lorsque vous ne pouvez pas, par exemple, quand vous êtes attaqué, et je ne pense pas que vous allez attendre d'abord qu'il y ait l'arrivée des gens, vous allez appeler les gens du quartier. Non, vous devez quand même vous munir des moyens de bord pour défendre votre épouse, vos enfants. En fait, c'est ça. Donc, ils sont dans une situation où ils sont vraiment dans une détresse. Isolés, ils ne sont pas, donc ce sont des gens qui n'ont pas de défense, en fait, qui ne peuvent espérer à aucun gouvernement, à aucune force publique qui peut.
Alors, quelles sont les garanties que, en fait, les expériences qu'on a connues dans le passé ne vont pas se répéter? J'évoque l'expérience de milices de défense, Mai Mai, hein, qui, en fait, à la longue, se sont illustrées par des actions sur les civils.
Moi, je pense que ça sera, ils vont se servir quand même de ces erreurs. S'il y a eu des erreurs par le passé, ils se serviront quand même de ces erreurs pour améliorer, pour prendre d'autres stratégies.
Non, parce que rien n'est garanti, nous sommes toujours dans le même contexte. Il y a la sécurité, il y a la recrudescence à l'Est. Et à l'époque, c'était pour s'opposer aux rebelles rwandais, aux rebelles ougandais qui opéraient à longueur de journée dans cette partie du pays. C'est ainsi que la population a pris cette décision à l'époque.
Oui, tout à fait. En fait, ce qui se passe aujourd'hui n'est pas différent de ce que vous évoquez. Hein? Vous voyez, quand on massacre, dans une nuit, on massacre des centaines de nos compatriotes, cette situation ne peut quand même nous réjouir. On ne peut pas vraiment croiser les bras et ou fermer les bouches face à cette situation. C'est-à-dire qu'il faut seulement encadrer cette opération, cela va voir voilà. Il faut seulement les encadrer, il faut se servir des erreurs qui ont fait dans les passés, que les armes circulent sans contrôle. Hein. Mmh. Aujourd'hui, quand même, si cela va quand même voir le jour, je pense qu'il faudra maintenant bien encadrer pour éviter que les armes circulent comme par le passé.
Merci beaucoup, Maurice, d'avoir rejoint vos prédécesseurs qui ont proposé donc que cette idée soit appuyée, soit accompagnée par l'État congolais et les uns ont même demandé qu'on puisse renforcer même la capacité de protection dans cette partie du pays, dans la protection des civils. Merci beaucoup, Maurice. Dieudonné, vous êtes à Issiro. Bonjour, Dieudonné.
Bonjour, Gilles.
Vous avez la parole.
D'entrée de jeu, je me permets de marquer quand même ma compassion envers les populations de Bénin et des environs par rapport à tout ce qu'ils sont en train de subir actuellement comme exaction de la part de ces personnes qui sont identifiées comme. Voilà. Voilà. D'entrée, je voudrais aussi ajouter que l'interprétation que l'on fait, que j'ai suivie tout à l'heure là, est vraiment pernicieuse. interpréter les articles 5 et 64 tels que ça a été fait par l'un de mes prédécesseurs ou par les ceux qui ont suivi précédé là. Mmh. Je pense que c'est, comme disait un éminent professeur à la faculté de droit, interpréter un texte en dehors de son contexte est un prétexte. Donc là, ils sont en train de chercher des prétextes pour justifier ce qu'ils veulent soutenir là. Je pense que le Haut Conseil de la Défense a rappelé ce qui est des droits et ce qui doit en principe être fait. Mmh. Moi, je pense, dans le contexte actuel, il faudrait plutôt chercher à ce que l'on puisse renforcer les capacités de l'armée et de la police afin qu'ils puissent remplir correctement leur mission. Mais de là à dire que la population civile doit s'organiser dans des milices ou dans des structures armées pour organiser sa propre défense, je trouve que ça, c'est chercher à ouvrir une boîte de Pandore. C'est-à-dire, ça va devenir incontrôlable, pratiquement. Parce que comment on peut comprendre, pour une armée, on sait que les militaires répondent à un commandement donné. Mais dans le cas de ces forces d'autodéfense-là, ils répondraient à quel commandement? Donc, moi je pense, selon mon interprétation, lorsqu'on invite la population à se prendre en charge, cela ne veut pas dire qu'on va distribuer des armes dans la population où ils commencent à combattre la sécurité ou quoi. Non, ça veut dire simplement que lorsqu'il y a des renseignements, et il faut les fournir à tous les jours, soit à la police, soit à l'armée, qui sont suffisamment dotés de moyens pour faire face à ce type d'action-là. Mais exposer la population en leur donnant des armes, on a vu des exemples ailleurs où les maïmaïs se transforment ils se combattent entre eux, et puis finalement, on s'en sort plus, on ne sait plus qui combat pour le pays et qui combat pour l'ennemi. Ce qui s'était passé avec Kinshasa, je pense que ce n'est pas par rapport... C'est pas identique. Hein. Donc, quand on cherche à biaiser les
gens... Oui, nous avons tous suivi l'actualité. Mais je ne sais pas si... Bon, ce sont peut-être des informations à prendre avec beaucoup de personnes. Sauf que la société civile avait quand même lancé une sonnette d'alarme pour annoncer, pour prévenir aux agents de sécurité et aux services de sécurité, disons, l'éventuelle opération... de Nadesh Nalou ou encore des personnes non autrement identifiées qui voulaient opérer. Voilà. En fait, on avait prévenu quand même la police, mais la réaction, ça n'est pas suivi automatiquement ou systématiquement.
Oui, effectivement. C'est-à-dire que il y a des lacunes. C'est pourquoi je dis augmenter les capacités de travail, les capacités de réaction de la police et de sécurité et de l'armée, effectivement. Parce que dans le contexte actuel, tel qu'il était, vraiment, on doit considérer qu'il y avait vraiment matière à réflexion et que ça laissait à désirer. Mais, révisant ce qui avait été mal fait jusque-là, je pense qu'il y a lieu de doter l'armée, la police et les services de sécurité de moyens qu'il faut. Mais accorder la sécurité à des personnes civiles qui ne sont pas suffisamment formées, je pense que ce serait créer une plus grande insécurité, ce serait créer un plus grand mal qui n'existe déjà pour le moment. Ça, c'est mon point de vue. En tout cas, je pense que vraiment, c'est...
Merci beaucoup Dieudonné, 081-890-63-15 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Écho d'économie sur Radio Capi, la vie économique du Congo à une vitrine. Écho d'économie, 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, un reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Voilà, on va poursuivre dans 5 minutes, vous aurez droit à votre bulletin d'information. Il est temps de recueillir aussi la réaction de notre invité, professeur Tazi Mahatma. Vous êtes professeur à l'INEKIN et analyste politique, vous intervenez dans cette émission par rapport à cette thématique. Vous avez suivi cette troisième série des auditeurs, comment vous réagissez? Voilà, désolé, on a des petits soucis avec la ligne de notre invité, Tazi Mahatma, vous comprenez.
qu'il est sur la colline inspirée. Voilà, donc Alinikin, le temps que sa ligne puisse se rétablir, donc on va lire quelques messages. Il y a Timothée Mukini de Kananga qui dit ceci: créer une milice pour protéger les civils, cela pourrait se déclencher ou encore une rébellion. Tous ces groupes rebelles qui veulent combattre ont commencé comme des groupes d'autodéfense populaire et les conséquences sont là. Il serait mieux de créer un climat de confiance et la prestation de services réciproques entre l'armée et la population. Cela pourrait favoriser la sécurité et décourager la prolifération de groupes rebelles. Voilà, Timothée Mukini de Kananga. Modeste Junior Ebois dit ceci: quand l'État ne peut pas sécuriser la population, il revient à ces derniers, à ces dernières de s'auto-sécuriser pour éviter de se faire la proie à des ennemis de la nation. Ingénieur Jackson Kachuki dit ceci: tout dépend de leurs autorités locales et le milieu dans lequel ils vivent. Exemple, le Rwanda a un service d'autodéfense, mais nos militaires ne sont pas bien concentrés au travail à cause de leurs conditions de travail. L'importance de la création de milices d'autodéfense, c'est la sécurisation de leur propre village et quartier dans les coins le plus reculé. Au lieu de créer des milices civiles, pourquoi ne pas renforcer la police nationale congolaise qui manque de qui a encore des problèmes d'effectifs? Ça c'est David Luki. Thomas Masikini à Wike de Gemena: la décision du Conseil supérieur de défense aura un impact que s'il prend sa responsabilité en main de sécuriser de la population sur son territoire. On n'aurait pas dû attendre la proposition de la population pour se prendre en charge. Cham Badou Kakourou de Goma: la création d'une milice d'autodéfense est la plus grande erreur qu'on peut jamais oser pour pallier au problème de l'insécurité à l'Est. Souvenez-vous, lors de RCD Goma, avec la création de forces d'autodéfense, ça a été une bombe à retardement. Même aujourd'hui, on n'arrive pas à enlever les séquelles qui sont gravées et même dans les mémoires de la population. Katembo qui a quoi? Quand l'État est fort, il nous écrase. Quand il est faible, nous périssons. Il faut qu'il soit dans un juste milieu, dit-on. La population a trouvé que l'État congolais est faible, raison pour laquelle elle veut se sécuriser à tout prix pour ne pas périr. Donc l'État congolais a bien tapé à côté de sa mission. Voilà. Mesdames et messieurs, vous avez également vos réactions par rapport à cette thématique. Nous vous rappelons, la société civile du Nord Kivu plaide pour la création de milices d'autodéfense populaire pour faire face à la recrudescence des cas d'insécurité dans l'est du pays. Cette population, cette proposition donc est rejetée par le Conseil supérieur de la défense du 3 novembre dernier, qui estime que la prérogative de protection civile rentre dans la mission régalienne de l'État. Alors, évoquant l'expérience des milices d'autodéfense Maïmaï qui se sont illustrées par des exactions sur les civils, certains observateurs s'y opposent aussi. Je ne sais pas s'il s'agit là également de votre réaction. Alors, quel regard portez-vous sur cette proposition? 081 890 63 15 pour votre intervention en direct, et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Cette émission de ce magazine donc de débat citoyen, Maître Josué, vous êtes en Mbujimayi au Kasaï Oriental. Bonjour. Maître Josué, vous êtes avec nous? Voilà, on prend plutôt Martin, Patrick qui est à Kananga dans les Kasaï Occidental. Patrick, bonjour.
Bonjour Julien, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Vous avez la parole, votre point de vue, Martin, Patrick.
Oui, je vous ai pris à télévé tout à l'heure quand vous venez de m'appeler. Je n'ai pas suivi l'émission depuis le début, mais quand j'ai été sur votre page Facebook, j'ai eu le sujet, c'était la proposition de la défense, de l'autodéfense populaire. Alors, cette proposition-là, pour moi, n'est pas du tout mauvaise. Elle n'est pas non plus bonne. Dans le sens que, si la population veut se défendre, alors, il faut avoir toutes les munitions, il faut avoir les armes, il faut avoir tous les instruments possibles pour que la population puisse se défendre. Mais de l'autre côté aussi, ce n'est pas bon dans le sens que ce sont les munitions-là. S'il y a des troupes, des rebelles, il y a des civils par-ci, par-là, c'était par rapport à notre autodéfense, nous, la population, nous qui voulons nous défendre. Maintenant, aujourd'hui, nous-mêmes là qui voulons nous défendre, nous sommes devenus les ennemis de la population. Donc, homo homini lupus, comme le latiniste peut le dire ou quoi. Donc, d'un côté, la proposition est bonne, dans le sens que l'État n'a pas pris ses responsabilités pour défendre la population. Elle n'est pas bonne dans le sens que c'est à partir de l'autodéfense, à partir de nos munitions, que nous-mêmes nous formons encore les troupes de rébellion, par-ci, par-là, comme des champignons. De l'autre côté, l'État aussi doit faire beaucoup d'efforts. Il a rejeté la proposition de la société civile. Et l'État aussi doit faire beaucoup d'efforts pour qu'il assume ses responsabilités. Ses responsabilités, c'est défendre ou assumer, contrôler, protéger la population. Pendant que la population n'est pas, elle se sent qu'elle est rejetée, elle n'est pas du tout protégée, elle ne peut qu'à se prendre en charge de ce que la proposition est donnée là. Donc, pour moi, je pense que la proposition n'est pas bonne, mais pas du tout mauvaise. Elle est bonne dans le sens que la population se voit elle-même en charge, pendant que l'État a foyé à sa mission. Elle est mauvaise dans le sens que nous-mêmes, si nous défendons là, nous avons aussi toute idée de mettre telle part, mais former des troupes pour attaquer encore cet État-là. Voilà tout où j'y ai.
Martin, à votre niveau, est-ce que vous partagez l'avis selon lequel il faudrait renforcer plutôt l'effectif de la police et les services des renseignements dans cette partie? Ça pourrait quand même être une partie d'une solution, de la solution donc.
Je ne rejette pas cette proposition-là. Vous voyez que pendant ce temps, il y a eu la police. Mais ce qu'il fallait peut-être juger, c'est le recrutement. Le recrutement n'est pas bon. On va renforcer avec qui? Avec quelque chose de police, avec quelque chose de d'armes, d'armées, et ainsi de suite. Il faut vraiment que le recrutement, ceux qui veulent, et parmi les recrutés là, parce qu'on recrute n'importe qui, sur la rue, peut-être par familiarité, on ramasse n'importe qui, on le met là-bas pour défendre. Mais l'un ou l'autre jour, c'est celui qui a été recruté pour défendre ou pour protéger la population, et il s'est transmis à un ennemi. Voilà que les recrutements, surtout, s'il faut renforcer la capacité des troupes de policiers et consorts, qu'il y ait vraiment les critères pour les recrutements. Qui est le critère pour le recrutement? Parce qu'on ne peut pas recruter n'importe qui après 3-4 mois. Vous direz que non, c'est dans... C'est la même population là qui s'est soulevée, c'est dans la même population là qui s'est soulevée des troupes et des troupes.
Voilà, alors, merci maître Martin Patrick, mais est-ce que vous donnez également raison à ceux-là qui pensent que l'inefficacité des actions ou des opérations menées par les FARDC serait liée en majeure partie à ces changements intempestifs à la tête de FARDC?
Je le dis tantôt, l'État ne s'est pas assumé. Si l'État s'était assumé, tout ça contribue à la protection de la population. Si vraiment les militaires, l'armée, le FARDC étaient capables de protéger cette population, la population ne pouvait même pas avoir une idée en tête pour dire que non, nous devons nous autodéfendre. Non, non. Donc, cette erreur-là est partagée entre la population, l'État, le FARDC qui ne se sont pas vraiment assumés cette responsabilité-là donnée par la hiérarchie. L'État aussi, je venais de le dire, quand je vois l'armée, il y a un chef suprême pour l'armée qui doit conduire. Il faut le recrutement, le recrutement. Si on se bat sur le recrutement, on recrute les brillants patriotes, vous verrez que ça va marcher. Il faut qu'il y ait un dialogue. S'il y a de complet, c'est A et B, tous discuter. L'armée, la population, vous discutez, vous trouvez un commun accord. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'insécurité qui prend le corps. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette insécurité puisse prendre le corps? Vous mettez un commun accord et chacun fait son devoir, chacun fait son et dans les droits, et c'est fini. La vie passe. La population, je pense qu'elle a raison parce qu'elle est beaucoup trop traumatisée. S'il y a des troubles, ce sont des humains qui meurent, et ainsi de suite. Alors, c'est ça qui coule là.
Les gens sont fatigués. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Martin et Patrick, d'avoir appelé des Kananga. On va prendre Maître Josué, qui est à nouveau en ligne. Maître Josué, bonjour.
Bonjour, bonjour, J.E.
Alors, quel regard portez-vous sur la proposition de la société civile du Nord-Kivu qui plaide pour la création des milices d'autodéfense populaire pour faire face à la recrudescence des cas d'insécurité dans l'est du pays? Proposition rejetée, bien entendu, par les conseils supérieurs de la défense du 3 novembre dernier.
Merci pour m'avoir reçu dans votre studio. Je salue d'abord tous les intervenants, les uns tout comme les autres. Et je reviens à la proposition, M. Juher, la proposition sur le plan social, sur le plan des sentiments qu'éprouve la société civile, elle est une très bonne proposition parce que à son niveau, elle a compris qu'elle a perdu beaucoup de ses frères, elle a perdu beaucoup de siens, et elle pouvait toujours faire des pareilles propositions, peut-être prendre des choses à main. Et cela aussi n'est pas toujours bon, M. Juher, parce que la réponse du Conseil supérieur de l'armée, c'est de la défense, vraiment, c'est une réponse qui soit une réponse de droit. Parce que même l'intervenant qui a fait allusion à l'article 5, l'article 64, mais l'article 5 et l'article 64 de la Constitution ne donnent pas de prérogatives à la population civile de c'est quoi de s'autodéfendre dans le sens de porter les armes et des munitions contre les groupes armés qui viennent ou contre les rebelles. Mais la problématique qu'il y a ici, M. J.R., c'est la problématique de l'infaillibilité de l'État à sa mission. Parce que la population a besoin d'être sauvegardée. Et cette population qui est relevée, peut-être de se joindre ou de jouer la même fonction ou d'assumer la même mission que l'État, c'est-à-dire qu'elle a un sentiment de bouter l'ennemi dehors. Mais de l'autre camp, l'armée, notre armée, monsieur Juher, comme nous pouvons le dire, parce qu'à un moment là, vous disiez qu'il y a beaucoup d'avancées, mais la guerre, si nous voulons bien faire des calculs, c'est depuis 1997 que cette guerre a commencé jusqu'à nos jours. Comment l'État congolais ne parvient pas toujours à maîtriser ces coins-là? Les gens meurent, ce sont nos compatriotes, ce sont les Congolais qui meurent jour et nuit. C'est pourquoi notre contribution à ces débats, c'est que nous voulons que l'État prenne ses responsabilités, que l'État parvienne à prendre ses responsabilités, l'État réorganise les choses, parce que d'un côté, si on libérait, on disait que la population, on acceptait cette proposition et qu'il y aura beaucoup d'armes en circulation, qu'il y aura beaucoup de munitions, c'est insécuriser encore plus l'Est. Parce que le problème de l'Est, c'est un problème de l'insécurité. Et cette insécurité peut être renforcée avec la libéralisation ou le fait d'accepter que la population se prenne en charge. Et quand la population se prendra en charge avec les armes qui seront en circulation, vous verrez vous-même qu'il y aura... Oui.
La situation va encore s'empirer. Merci beaucoup, Maître Josué, d'avoir appelé de Mbujimaï. On va accorder juste une minute aussi à John Guetalbouachi. John, bonjour.
Bonjour, Maître Josué.
Vous avez la parole. Votre point de vue en une minute, John. Hein?
Ok, d'accord. Moi, je soutiens cette proposition de la société civile de Nord-Kivu. Parce que moi-même, j'ai pu vous donner un témoignage, c'est qu'il y avait une situation des intérêts moins qui dérangeait côté Nord-Katanga, juste il y a Nord-Katanga en frontière avec une partie du reste du Panama. Il y avait les intérêts moins qui faisaient des troubles là-bas. C'était les gens qui se sont donné corps et âme pour combattre ces gens. Et les munitions se sont même, quand ils attaquaient les Intérimoins, ils arrachaient quelques armes, même les efforts de ceux qui se mettent des insécurités là-bas. Ils avaient peur de traverser et la sécurité est revenue, les calmes, les Intérimoins traversent aussi, surtout dans les montagnes là-bas, au carré, très loin. De cette partie de cette contrée donc du territoire, mais je soutiens cette
proposition,
cette idée. Encore, donc ma défense devrait encourager ça, mais
Merci beaucoup John d'avoir appelé de Lubumbashi. Nous disons également merci à tous les auditeurs qui ont participé à ces débats. C'est par ici que nous mettons un terme. Donc à cet échange citoyen, on se retrouve demain dans un autre débat. Merci à Paul Badianyama, à Julie Feza Bungunda qui ont concouru à la production de ces programmes coordonnés et présentés par J.R. Lungembo. Donc on pourra rendez-vous avec vous demain.